Bonsoir à tous. Donc, nous remercions nos deux auteurs qui sont présents ce soir. Alors, Monsieur Étienne Kern pour son premier roman Les Envolés et Monsieur Olivier Schaeffer pour Un saut dans la nuit. Donc, ce sont deux premiers romans, donc, mais pas vos premiers écrits.
Oui, il semble que vous vous soyez préoccupés de théorie, tous les deux, l'un de littérature, l'autre d'esthétique. Et donc, bien sûr, la question évidente, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ce passage à la fiction ? Et on vous laisse vous débattre tous les deux là-dessus.
C'est moi qui commence. Oh là là, bonjour à tous, merci beaucoup. Très intimidé, moi, d'être à côté d'Olivier, qui est philosophe, spécialiste de plein de choses. Les livres qui ont précédé Les Envolés, ce ne sont pas vraiment des livres de théorie, ce sont des livres d'enseignants qui prolongent l'activité pédagogique et qui parlent essentiellement de la vie littéraire. Il s'agit de transmettre une passion pour les écrivains. Les Envolés, c'est un roman, mon premier roman, mais ça a été appelé par le sujet parce que vous savez que je pars de ce vieux film en noir et blanc qui saisit en direct la mort de Franz Reichelt le 4 février 1912. Cet homme, ce tailleur pour dames autrichien, je résume un peu, qui saute de la tour Eiffel avec ce parachute qui ne s'ouvre pas. Et quand je suis tombé pour la toute première fois sur cette vidéo sur Internet, j'ai été tellement à la fois fasciné, bouleversé, ému. Je me suis senti si intimement concerné par ces images, pour des raisons essentiellement personnelles, que l'idée d'écrire sur lui, et non pas sous la forme d'un essai, mais d'une fiction, s'est imposée à moi tout de suite. Il m'a semblé que la fiction permet de faire de cet homme, Franz, un objet à la fois de mystère, parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi il a sauté, mais d'ouvrir l'éventail des possibilités. Et ça fait aussi lui un objet de tendresse, d'empathie, alors que l'essai l'aurait tenu à distance. Voilà, dans mon cas, c'est vraiment lié au sujet.
Bonsoir, merci. Je suis tout autant intimidé d'être en compagnie et avec vous ce soir. Pour répondre à cette question, c'est important, oui, c'est compliqué en même temps. Comment je pourrais vous répondre ? Peut-être vous dire que quand j'étais tout jeune, j'écrivais des textes, il se passait plein de choses. C'était des bouts de théâtre, des bouts de pensée, c'était que des bouts de trucs comme ça. Et un jour, j'ai découvert que des auteurs du premier romantisme allemand faisaient ça, mais bien mieux que moi. Et que donc, eux, leur question, c'était d'articuler précisément ce qu'ils appellent la poésie et la philosophie. Et donc, la question, ce lien indissociable entre la pensée, on va dire, la théorie, on peut dire, mais la pensée, et la fiction, l'écriture, voilà, est posée au cœur du premier romantisme allemand, le Frühe Romantik, autour de 1800. Et donc, c'est une période sur laquelle j'ai travaillé, et en travaillant sur cette période, j'ai travaillé sur les objets qui m'intéressaient, mais avec un regard un peu plus savant, sérieux, objectif, et puis la subjectivité était toujours là, et de fil en aiguille, je suis revenu. Je suis venu, pas revenu, ou revenu peut-être aussi les deux, vers une forme de fiction. Mon premier livre un petit peu attaché à la fiction s'appelle « Variations nocturnes ». Il date de 2008, c'est un livre sur l'insomnie, parce que je trouve que je ne dors pas beaucoup. je connais un peu le sujet. Et voilà, composé de textes très courts et qui alternent justement des réflexions, des analyses de films et puis des moments un peu fictionnels. Donc ça a commencé comme ça. Voilà.
Oui, pas tant de légèreté que ça, puisqu'on tombe beaucoup dans vos deux romans. C'est effectivement le facteur commun, des facteurs communs de vos deux récits, hein, la chute, souvent dans un contexte plutôt douloureux. Alors chez vous, Monsieur Schaeffer, c'est plutôt au départ le goût du risque de deux jeunes gens qui nous y amènent. Voyons ça ensemble. Un de nos jeux favoris, était-ce encore un jeu, consistait à se retenir d'une main à la branche d'un arbre au bord de la rivière. Sans tomber, il fallait plonger l'autre main dans l'eau, glacée, pour en extirper un gros caillou. C'était un défi à relever. Il y allait de notre honneur d'homme naissant. Une après-midi, Jean faillit bien disparaître. La branche à laquelle il se tenait se brisa, alors qu'il avançait une énième fois une main tremblante dans la rivière glacée. Les cailloux brillaient d'étranges façons sous l'eau. Ils ressemblaient à des pierres précieuses, rubis, émeraudes, saphirs. On prêtait à leur reflet prismatique toutes les vertus possibles. Ce jour-là, Jean essayait d'attraper un gros caillou anguleux et brillant. Il tomba, aussi brutalement qu'une masse sombre. Le flot était si rapide que je ne pus rien faire. Jean fut emporté.
Chez vous, Monsieur Kern, la chute est comme obsessionnelle, inéluctable. C'était un jour de 1977 dans la ville où j'ai grandi, en Alsace. L'immeuble qu'habitaient alors mes parents donnait sur une petite rue. Ils venaient d'avoir un enfant, mon frère aîné. Mon grand-père était chez eux. Ma mère était sur le balcon, il faisait beau. Elle avait sorti sa machine à coudre pour travailler au soleil. À un moment, mon grand-père est sorti sur le balcon. Nous n'en parlons jamais. J'ignore ce qui s'est passé exactement. Je n'ai jamais su si c'était le premier, le deuxième ou le troisième étage. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent traîner par là. Je comptais les fenêtres, du bas vers le haut, puis du haut vers le bas. Je ne saurais me représenter la scène. Était-il adossé à la rambarde? S'appuyait-il par l'avant du corps? Regardait-il le ciel? Le chien a-t-il sauté sur lui? Toujours est-il que la chose est arrivée. La rambarde a cédé sous son poids. Il est mort à l'hôpital le jour même. Il avait 52 ans. Puis, plus loin, pour une autre disparue, vous dites « J'ai refait ce rêve, les rambardes qui lâchent, le sol qui s'ouvre, les failles et la chute. » Donc dans vos deux romans, la chute est omniprésente.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi, diable ?
Je crois qu'on n'est pas très originaux, en fait. Hein. La chute, qu'on écrive avec une minuscule ou une majuscule, est un motif absolument majeur de tout l'imaginaire occidental. Qu'on pense à Icare, chez les Grecs, qu'on pense à la chute dans la Bible avec une majuscule, qu'on pense à cette expérience si banale, si universelle du vertige. Bon, les philosophes, justement, nous expliquent que ce n'est pas simplement la peur de tomber, mais quelque chose de beaucoup plus obscur qui ressemble à un désir de se laisser tomber, un appel du gouffre. Je suis frappé par le nombre de lectrices de lecteurs qui me disent « Ah mais justement, vous savez, un jour à la montagne j'ai fait une chute, ou alors un jour j'avais un voisin dont l'enfant est passé par la fenêtre, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. » Enfin, c'est une expérience qui est extraordinairement partagée, et banale, et fondamentale, et terrifiante.
Oui, je pense que ça reproduit aussi, ça représente une crainte, la chute fatale, quelle qu'elle soit.
Oui, en effet. Et puis il y a des chutes beaucoup plus banales, c'est le fait de tomber. Et on sait que c'est comme ça qu'on apprend à marcher en même temps. Une suite de chutes nous aide un jour à ne plus chuter. On est dans un monde où il faut surtout faire attention. Ça me frappe à chaque fois que je prends le train, on nous explique qu'il faut faire attention là où on va mettre le pied pour ne pas tomber, ce qui quand même m'hallucine un peu parce que je suis quand même assez grand. Je pense que je sais quand même franchir une marche. Et donc tout ça pour dire qu'il y a une espèce de crainte aussi, comme on sait, mais qui renvoie peut-être à des motifs en effet ancestraux. Je pense également à ce que dit Gaston Bachelard dans... Je crois que c'est dans l'air et les rêves. Il commente un texte d'Edgar Poe, La chute dans le maelstro, justement. Hein. Il est question d'une chute comme ça, dans une sorte de vortex d'eau. Et en commentant ce texte, il dit très justement, et c'est là qu'on voit aussi que la chute a ses racines dans l'imaginaire, que la chute précède le gouffre et qu'elle l'engendre d'une certaine façon. C'est la peur de tomber qui fait l'abîme. C'est pas simplement parce qu'il y a un abîme qui tombe, mais parce qu'on a cette crainte en nous profonde, qui est aussi peut-être une chute intérieure, qu'elle engendre son propre lieu. Et j'aime beaucoup cette idée parce que ça nous montre que cette chute, elle est tout à la fois réelle et imaginaire aussi, profondément ancrée en nous en tout cas.
Oui, parce que dans vos deux romans, les chutes ne sont pas qu'une fond, elles sont fondamentales de d'autres choses. Enfin, en tout cas, chez vous très nettement, mais chez nous aussi là. Elles ne sont pas forcément mortelles, ces chutes.
Oui, c'est des sauts, des points de passage. C'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'on partage deux éléments. Ça, on pourrait être dans deux textes de Bachelard. Enfin, oui. Hein, l'eau, moi, toi
oui,
l'air.
Parce que c'est amusant, le texte qui a été lu tout à l'heure, associé à la chute, l'arbre et la rivière, au titre de l'eau, alors qui est très présent aussi dans mon livre, parce que, comme c'est à Paris, qui est la Tour Eiffel, la Seine est présente, elle aussi. Et ce personnage de Franz a... porte ce gouffre intérieur qui en fait l'attire d'emblée Et à un moment, ça se traduit par une tentation de se laisser couler dans la scène. Une idée qu'il y aurait une forme d'apaisement, de d'autodestruction heureuse, dont la chute finale est en gros la métaphorisation brutale. En tout cas, je crois que nos deux livres sont très ancrés dans l'imaginaire. Je trouve ça caractéristique que Bachelard soit, soit tout de suite convoqué.
Oui, c'est vrai.
Et je crois que, même si nous avons écrit des romans, sa dimension ancrée dans l'imaginaire et dans les éléments, quelque chose d'élémentaire, que ce soit l'eau, l'air, la terre, etc., fait que nos livres s'approchent un tout petit peu sur le terrain de la poésie.
Sans doute, oui, sans doute. Oui, ce rapport aux éléments, ouais, effectivement, aux éléments premiers aussi. Oui, alors la poésie, alors là, on va être encore bachelardien, la verticalité, c'est ça le bachelard, enfin, on va peut-être arrêter avec Bachelard, ouais, mais... moi, je pensais à ça, à l'intuition de l'instant. C'est un texte magnifique où il compare la poésie, justement, à quelque chose qui est vertical et qui relève d'une élévation ou d'une chute. Et d'ailleurs, là, il a des beaux textes là-dessus. Hein. La chute, c'est une élévation à l'envers aussi. On peut l'envisager ainsi.
Je pensais au texte où il dit que l'effet poétique dans un texte est créé, selon lui, par le rapport aux éléments. Plus c'est simple, en fait, plus c'est à la fois ancestral et simple, plus les personnes qui lisent peuvent trouver cette coloration un peu irréelle qui définit en fait la poésie.
Oui, parce que la poésie aussi est rattachée à des lieux. Il y a une topographie qui est très importante. Et les éléments permettent de définir justement des géographies qui sont des géographies aussi de l'imaginaire, de l'esprit, du cœur. Enfin, donc voilà. Voilà pour Bachelard, peut-être. Voilà.
Mais pour la chute. Alors la thématique d'origine de cette rencontre était, comme vous avez pu le lire dans le programme, tendresse et mélancolie. Venons-en au moins à la tendresse, la mélancolie on verra pas plus tard. L'un comme l'autre, vous manifestez une grande tendresse pour vos personnages, une grande empathie. On vous sent aimant, ces personnages. Alors, chez vous, Monsieur Kern, ça se traduit par une chose très simple, qui est le tutoiement du héros, comme si c'était le copain qu'on croise au coin de la rue. Le photographe t'a saisi en plein saut, à 2 mètres du sol. Tes jambes sont légèrement fléchies, tes pieds pointent vers le bas. 2 sangles partent de tes chevilles et rejoignent un peu plus haut la partie droite d'une grosse bulle de tissu qui dissimule ton buste et ta tête. La toile, très sombre, occupe à peu de choses près le centre de la photographie. Des jeux d'ombre y creusent des reliefs. Une vague ondulation épouse peut-être la courbe de ton visage. En contrebas, un peu décalé vers la gauche, ton ombre dessine un cercle sur la grange. Elle tombe juste sur une porte à 2 battants. Tout en bas, par terre, une couche de paille. J'aime ta silhouette sur la porte close. J'aime cette impression de sérénité, de lévitation. Tu es comme un enfant qui prend un parapluie et saute d'un muret. C'est une chute pour rire. Et j'aime par-dessus tout cette cloche de tissu qui dérobe ton visage. Tu es n'importe qui. Tu es le rêve, la foi, le désir, le vertige.
Bravo.
Je vais intervenir.
Allez-y.
Sur le tutoiement... tutoiement d'un copain, peut-être pas. En fait, le texte qui a été lu tout à l'heure par Chantal parlait de mon grand-père qui est mort en tombant d'un balcon. Y a plusieurs chutes qui se superposent, se répondent dans le livre. La chute historique, mystérieuse, spectaculaire qui se passe à la Tour Eiffel en 1912. La chute accidentelle qui a provoqué la mort de mon grand-père et une chute voulue, un suicide d'une amie que j'avais qui s'est défenestrée un jour à Paris. Le tutoiement de mon personnage, pas dans tout le livre, mais dans certaines sections, tient à cette superposition des figures. C'est un tutoiement tendre, effectivement, un tutoiement affectueux, qui est celui que j'aurais pu avoir pour mon grand-père si je l'avais connu, parce que c'était avant ma naissance, et que j'avais évidemment pour cette amie Muriel. Et j'ajouterais que si ce tutoiement dit la tendresse, il vient aussi enregistrer une affectivité, une émotion. En fait, quand on tutoie quelqu'un, c'est pas simplement parce qu'on l'aime bien, parce qu'on peut aussi tutoyer sous le coup de la colère à un automobiliste qui nous a dépassé ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, le tutoiement enregistre l'émotion, l'affectivité. C'est aussi pour ça qu'on se met à tutoyer le chauffard, parce qu'on est d'un coup soulevé par une telle colère, un tel agacement, qu'on va le tutoyer. C'est pas un tutoiement d'affection ou de tendresse. Et des psychologues ont étudié un cas qui est terrible et qui va nous, nous ramener au motif de la chute. Que se passe-t-il si nous rencontrons quelqu'un qui est au sommet d'un immeuble ou sur le toit et nous donne l'impression qu'il veut sauter? Eh bien, dans tous les cas, on va tutoyer cette personne en disant « Mais arrête, fais pas l'idiot, redescends !» Alors même qu'on le croiserait sur le trottoir, normalement, on lui dirait « Je sais pas, bonjour monsieur, bonjour madame », il y aurait un vouvoiement de politesse, un vouvoiement normal, de base. Et ce tutoiement face à la personne dont on sent qu'elle va peut-être sauter, et un tutoiement qui enregistre cette émotion qui nous soulève, nous bouleverse, face au risque qui est devant nous.
Et qui apporte une certaine proximité vis-à-vis
cette personne. À la fois l'affection et l'émotion. Mmh. Et donc c'est ces deux niveaux qui m'ont poussé à tutoyer ce personnage.
Oui, c'est le moment où on brise des codes sociaux pour une bonne ou mauvaise raison, d'ailleurs, comme tu dis, ça, effectivement.
Donc chez vous, chez Monsieur Schaeffers, la tendresse se manifeste dans votre façon de décrire cette jeune fille, Geneviève, d'une façon presque romantique, moi j'ai trouvé. Geneviève devait avoir 17 ans. Ces deux grandes années qui nous séparaient d'elle représentaient un monde. Jean et moi étions encore des gamins énervés, chiens fous ruant dans les brancards. Geneviève portait un sac de toile, un peu babacool, deux grosses fleurs rouges et jaunes en écusson. Ses cheveux étaient attachés en un chignon hâtif, brouillon, qui tenait à l'aide d'un crayon à papier. Elle avait le calme d'une future femme, mais un reste indéfinissable d'enfance flottait lorsqu'elle était là. Elle avait une bouche couleur framboise, un sourire rayonnant et ce quelque chose d'impalpable qui s'insinuait entre ses cheveux blonds, ses épaules dénudées, ses formes dessinées sous le chemisier. Elle représentait un danger inévitable, nécessaire. Elle devait savoir des choses que ni Jean ni moi ne connaissions encore. Geneviève mettait du mystère là où on ne voyait que des défis.
Et ça n'est qu'un exemple.
Oui.
Oui, alors la tendresse, je pense qu'elle apparaît aussi entre les deux amis, parce que c'est un livre qui parle d'amitié. Et c'est... voilà, c'est des amitiés assez comme ça, immédiates. Ils sont chacun, ils viennent d'univers différents, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est ce qui est beau d'ailleurs souvent dans ces premières amitiés qu'on peut avoir. On parle de codes sociaux il y a un instant, mais justement il y a une espèce d'indifférenciation. Et voilà, leur amitié va évoluer au fur et à mesure du texte. Et puis surtout quand entre eux il y a une femme, d'une certaine façon, une jeune femme qui est aussi une femme, pas tout à fait. Enfin, on est dans un passage de monde qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ces moments de transition. Et l'adolescence, pour ça, est très poignant, je trouve, parce que c'est un moment où on n'est plus ceci, on n'est pas encore tout à fait cela, on ne sait pas tout à fait qui on est, d'où ce côté un peu foufou des garçons qui testent des limites. Ça peut être aussi les filles, bien sûr, comme on voit. Et alors, pour vous répondre sur la tendresse, je ne sais pas comment vous répondre, on va dire. Oui, romantique, oui, sûrement. Il y a des motifs romantiques.
Moi, je trouve que dans la façon que vous avez de décrire cette jeune fille, ça reste tendre.
Oui, c'est vrai. Je crois pas. D'ailleurs, je me suis demandé si je l'avais connue. Je crois pas. Mais j'ai connu quelqu'un dans cette région que je connais bien, dont j'ai été, je crois, amoureux, mais il y a très très longtemps. Et c'était une jeune fille à la tour, voilà, lointaine. On était dans un conte. Et donc, peut-être c'est elle, peut-être c'est pas elle. Enfin, on ne sait pas. Mais donc, peut-être quand j'écris ça, oui, je suis un petit peu amoureux du personnage que j'ai écrit.
Oui, ça, oui, on
le sent. Oui.
Il faut, parce qu'autrement, on tient les choses à distance, comme on disait tout à l'heure. Et voilà. On donne quelque chose de soi. Autrement, ça n'existe pas, je crois.
Oui, on a choisi cet exemple, mais ce n'est pas le seul. Hein. On sent aussi votre tendresse pour les deux garçons et leur tendresse entre eux, bien sûr. Les deux romans nous embarquent vraiment dans des relations humaines très empathiques et très, très tendres, en général, d'un bout à l'autre, hein, même chez vous, même malgré la chute.
Si je me permets de rebondir. Effectivement, il y a deux niveaux de tendresse. Il y a la tendresse entre les personnages et aussi celle que la personne qui écrit éprouve nécessairement pour les personnages qu'elle met en scène. Et je crois que même si on met en scène une espèce de monstre moral qui nous répugne un petit peu, il faut, pour pouvoir passer des mois, des années avec ce personnage, éprouver une forme de tendresse malgré tout. Il y a une romancière que j'aime beaucoup qui est Olga Tokarczuk, je ne sais pas si je le prononce très bien, romancière polonaise, qui, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, je ne sais pas, en 2017 ou quelque chose comme ça, dans son discours à Stockholm, a fait le choix d'intituler son discours « Le tendre narrateur ». Et c'est une très belle méditation sur la tendresse qu'elle définit, je crois, comme la forme la plus humble de l'amour. C'est-à-dire une forme d'amour qui ne va pas entraîner de violence, qui ne va pas entraîner de jalousie, qui est la forme la plus douce et qui est, selon elle, au fondement même de la littérature. Parce que si on n'éprouve pas un minimum d'attention affectueuse et bienveillante pour les autres, qu'ils existent réellement, ou les autres de papier qu'on crée, eh bien, l'acte d'écriture n'est pas possible.
Oui, sans doute, quand Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi », il éprouve une forme de tendresse. D'ailleurs, j'avais lu dans un livre de psychologie littéraire, je crois, qu'à ce moment-là, quand il dit ça, il est sujet à des vomissements lui-même. Donc, comme Madame Bovary qui prend de l'arsenic. Enfin, il est vraiment à ce point dans l'empathie qu'il va jusque-là. Donc, c'est pas de la tendresse sans la bienveillance, mais... on donne quelque chose de soi quand on écrit, nécessairement. Et c'est ça aussi déjà un acte de... Pour faire exister ces personnages, il faut qu'on donne de sa chair, je pense. C'est très physique, l'écriture, en fait. Je pense vraiment. C'est pour ça qu'on est crevé après.
Exactement.
On est épuisé, quoi. On est content quand le prochain livre n'est pas encore là, et quand il arrive, on se dit, aïe, aïe, il va falloir y aller, parce qu'on n'a pas le choix.
Sans parler d'aller le défendre dans un festival où il fait très chaud.
Non, mais ça, c'est tout.
Oui, vous vivez encore un certain temps avec vos personnages. De par le fait des rencontres l'année qui suit.
On les revit, en tout cas. Oui. On les découvre autrement, à travers vos lectures aussi. Mm-hmm. C'est surtout ça qui est génial. C'est, les lecteurs font vivre les textes. Enfin, je ne sais pas pour ce qui te concerne, mais moi, j'aime bien, justement, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, qu'il y ait quelque chose d'un peu indéterminé, qu'on ne sache pas, par exemple, dans mon cas, exactement comment ça finit. Parce que je trouve que, au fond, le lecteur, il fait aussi le texte. Il ne le lit pas simplement, il le fait exister, il le prolonge, il peut l'imaginer à sa façon. Moi, j'aime bien laisser une place au lecteur dans les textes. Ça me semble très important. Je ne veux pas du tout... je ne sais pas où je vais, moi, quand j'écris, en fait. Et j'ai envie que les lecteurs, ils fassent leur chemin aussi. Je suggère des choses, je donne des pistes, et après, c'est à vous.
Et j'ai envie de dire que symboliquement, consciemment ou non, quand tu mets un crayon dans le chignon de ton personnage féminin, ou quand tu lui prêtes un carnet à dessin
à
la fin,
mais ça, je le savais pas,
c'est comme une invitation au lecteur, allez, dessine le personnage maintenant.
Voilà, j'ai compris ça après, en relisant les épreuves, j'ai compris ce que je voulais à la fin, à cause de ce détail-là, du crayon passé dans les cheveux. Je ne savais pas au début. La fin était très différente, je ne vous dirai pas laquelle. Elle était dure, trop dure. Justement, ça me rendrait triste, parce que comme j'avais mis beaucoup d'amour...
Tu me diras tout à l'heure pendant l'apéro, dès qu'on aura bu un petit peu, je savais quelle est l'autre fin.
D'accord, à la fin à laquelle vous avez échappé.
Merci de nous tendre une perche, parce que justement, on voulait aborder chez l'un comme chez l'autre la trace alors, celle sur laquelle vous, M. Kern, vous vous reposez, les traces d'ailleurs, pas une trace, des traces, et celle à laquelle vous aboutissez, vous, M. Schaeffer, dans la fin du roman. Et alors, les traces chez M. Kern sont d'ordre visuel, la plupart, films, photos, voilà, et on ne révélera pas de quoi il s'agit chez M. Schaeffer. Je collectionne les photos de toi. Je ne saurais dire où ces deux-là ont été prises, ni quand. Je les ai trouvées dans un journal de l'époque. Sur la première, c'est d'abord ton col qui attire mon regard, d'un blanc éclatant. Il émerge d'un costume bouffant, arrondi, de couleur sombre. Les coutures sur le ventre et à hauteur des avant-bras sont très visibles. Deux pointes de tissu, derrière lesquelles se devine une armature métallique, s'élèvent au-dessus de tes épaules. Tes bras sont écartés, tes mains ouvertes. Tes pieds et tes chevilles sont pris dans une sorte de caoutchouc. Tu poses. On a l'impression que tu fais des essayages. Sur ton visage, les yeux, pleins d'ombre, font comme une barre que ta moustache très large redouble un peu plus au bas. Tu as les cheveux peignés, derrière toi, un mur gris. Tes bras nous accueillent. Tu as l'air désolé, battu d'avance. C'est comme si tu nous disais « ce n'est que moi ». Sur l'autre image, tu nous invites à découvrir l'intérieur de ta combinaison. Une série de sangles, plus claires que le reste, partent des hanches et s'accrochent à divers endroits du vêtement. Tes bras esquissent une ligne horizontale. Tes jambes, ton buste, ton visage regard buté, soleil dans les yeux, forme un axe vertical prolongé par l'espèce de hotte de tissu qui surplombe ton corps, tendu par deux tiges déployées à une trentaine de centimètres du crâne. L'ensemble dessine une croix. Le mur s'élève très haut. Je ne vois pas le ciel. Au sol, des cailloux, des brindilles et, je crois, les morceaux d'une cruche brisée.
Je dois parler ?
Si vous voulez. Vous avez le droit.
Oui, il y a une dimension descriptive qui est assez, assez présente dans, dans le texte. Cette photo existe, hein. Je décris 5 ou 6 photographies, je décris à plusieurs reprises la fameuse vidéo, là, le film en noir et blanc. Je reprends certains codes de la peinture aussi, enfin, je veux dire la cruche brisée, etc. Mais c'est là où les bras en croix, je veux dire, ça fait écho à des tableaux connus de l'iconographie qu'on peut voir dans les musées. Mais en même temps, tout est dans la photographie, ça m'est donné par la photo. J'avais à l'esprit, en écrivant tout ça, un essai fameux de Barthes, on va revenir vers la théorie, qui s'appelle « La chambre claire », une réflexion sur la photographie, qui est un livre magnifique, où Barthes insiste sur ce qu'il appelle, je crois, les pouvoirs de ratification ou d'identification de la photographie. La photographie dit toujours « ça a été ». Ça a été. Et ce qui est paradoxal dans le cas de Franz Reichelt, c'est que ces photos sont tellement étranges qu'en fait, on n'y croit pas que ça a été. On a l'impression d'une mise en scène. Et donc j'ai décrit sans cesse pour essayer de saisir cette évidence qui nous échappe tout le temps, parce qu'on n'en croit pas nos yeux, alors même que la photo est censée authentifier l'existence de ce « ça a été ». Et ce que je trouve très intéressant dans le bouquin de Barthes, c'est qu'il articule ce « ça a été » à ce pouvoir émotionnel très fort qu'ont les photographies. C'est une expérience vraiment banale, mais on est souvent bouleversé face à une photographie. Qu'on connaisse ou non les personnes, s'il y a des personnes, c'est pas forcément des personnes, sur la photographie. Et Barthes dit que c'est pas parce que la personne est décédée ou pas, c'est que ça enregistre quelque chose qui a été, et qui fatalement n'existe plus. Et donc c'est l'enregistrement du passage du temps, tout simplement, qui nous renvoie à notre condition de mortel, qui nous émeut dans la photographie.
Ce qui rapproche peut-être la photographie du souvenir au sens proustien, si on veut. C'est-à-dire justement, comme dit Proust, hein, la coexistence de l'être et du néant, la simultanéité de ce qui est et de ce qui n'est plus. Et la photographie, c'est ça, finalement. Le « ça » a été, de toute façon, c'était un grand lecteur de Proust. Oui. Mais oui. Ça saisit effectivement un moment du présent, du passé. Mais
exactement.
Les deux ensemble, oui. C'est ça qui est
très. Et même le futur. Il y a une photo en particulier que Barthes reproduit et commente. C'est la photo d'un homme qui est condamné à mort en 1865.
Oui, très connu, ouais.
Quelqu'un qui a essayé d'assassiner un ministre américain. Et cet homme est photographié dans sa cellule. Il a des menottes. Et on sait qu'il est pendu, je crois. Enfin, il est exécuté juste après. Et Barthes dit sous la photographie, il est mort et il va mourir. Il est mort parce que s'il y a une photo en noir et blanc, on voit bien aux habits, on voit tout, que c'est très vieux. 1865, il est forcément mort depuis longtemps. Mais comme il est photographié juste avant la mort, pour lui, la mort est encore un futur. Il est mort et il va mourir. Et c'est la même chose quand on voit le pauvre Franz Reichelt en 1912, 10 minutes ou 5 minutes avant sa mort, tout souriant, en train de nous montrer son parachute. Sa photo nous dit sa mort au futur.
En même temps, il y a un mystère dans le livre de Barthes, c'est que tout ce livre, il l'écrit après la mort de sa mère. Et la seule photo qui ne soit pas présente dans le livre, c'est une photo de sa mère, justement. Donc tout le livre s'articule aussi autour d'une photo impossible à voir, à montrer. Oui. J'aime beaucoup ça aussi, tu vois,
oui.
cette espèce d'absence qui irradie, en fait, qui rend présent, qui légitime toute l'entreprise. C'est très beau, je trouve.
Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient peut-être là pour écouter Clara Dupont-Monod hier ou avant-hier, je ne sais plus, à propos de s'adapter, où elle a dit que vivre sans et vivre avec une absence, ce n'est pas pareil. Et là, on sent que Barthes vit avec une absence.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, la trace, j'enchaîne. Donc, la trace, pour vous, réside dans le journal de Geneviève. Donc, il y avait un sommier en métal, un évier plein de poussière et ce cahier sur une table. Il le mit entre mes mains. C'était comme tenir un morceau de temps pur. Il m'encouragea du regard. N'ayant jamais vu son écriture, je me demandais à quoi elle pouvait ressembler. À cette époque, nous étions censés faire nos devoirs de vacances sur des cahiers à peu près semblables à celui-ci. Je remplissais une page, mes sœurs deux peut-être, et les cahiers dormaient sur un recoin de la table comme ces cartes postales que ma mère achetait et qu'elle n'envoyait jamais. Mais un journal de jeune fille, j'imaginais des pensées naïves, des bleuettes risibles, des petits cœurs, des fleurs dessinées ici et là. Presque intimidée, car je ne reconnaissais pas Geneviève dans ses clichés sur l'adolescence, je l'ouvris et découvris à ma grande surprise un carnet de dessins, sans un seul mot. Ce cahier secret bruissait de sensations lointaines.
Oui, des traces. Il y avait une exposition, je fais un détour pour vous rebondir, je ne sais pas. Il a été question de rebondissement tout à l'heure. Il y a eu une très belle exposition au Centre Pompidou en 2008 qui s'appelait Traces du Sacré. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui était formidable et pour laquelle j'ai eu la chance d'écrire un texte dans le catalogue. Et j'étais tombé sur cette phrase, justement, de René Char, qui dit, je cite mal, mais qui dit la chose suivante, à peu près, « Pour un poète, il n'y a pas de preuves, il n'y a que des traces. » Et je trouve que c'est ça, en fait. On travaille sur des traces, des signes, de choses qui ont disparu, de choses qu'on réactualise en s'en saisissant, justement. Et là, c'est vrai que j'ai découvert moi-même que c'était... je ne savais pas ce que ça allait être du tout. Au début, ça devait vraiment... D'abord, je ne voulais pas qu'elle meure, je voulais qu'elle disparaisse et que quelque chose d'autre puisse se passer. Et comme c'était un livre aussi sur l'anamnèse, le ressouvenir, donc... il lui dit qu'il va lui donner quelque chose, donc quoi ? Et j'ai pas mal tâtonné, et puis c'est tombé sur un journal de jeune fille, et puis ça marchait pas. Et la question de la trace visible, de la peinture, c'est quelque chose moi, qui est très important. J'ai fait un livre juste avant qui s'appelle « Conversation silencieuse », qui est un livre sur ma découverte, alors là qui est plus autobiographique pour le coup, de la peinture à travers la relation à mon père, qui est historien d'art. Et pendant longtemps, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais il me montrait des peintures, comme ça, on tournait un livre de Francesco, de Paolo Cello et d'autres. Et donc finalement, la conversation s'est faite à travers des images. Et quelque chose comme ça est revenu, je ne sais pas comment, les trucs s'emboîtent parfois bizarrement. Et voilà, donc les traces là, ça s'est imposé comme une évidence pour moi, que ça devait être des dessins. Je cite cette phrase de Goethe aussi, à la fin, ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas vu, ce que je trouve une phrase incroyable. Donc voilà, c'est entre Char et Goethe, j'essaie de me dépatouiller. Mais c'est pas du tout un livre théorique, vous l'avez peut-être lu. Hein. Là, on a l'air de convoquer plein de grandes références, mais rassurez-vous, c'est très simple en fait. C'est, au contraire, c'est un livre très simple.
Oui. Voilà. Alors, on avait dans notre potentiel sujet la mélancolie. Est-ce que vous pourriez nous toucher deux mots l'un comme l'autre on va faire trivial, de la dose de mélancolie que vous avez mise dans vos récits.
Immense, infini, un gouffre. La mélancolie, c'est un vaste sujet quand même. Hein. Depuis Aristote, oui, le pseudo-Aristote, le problème 30, en passant par le livre fameux de Panofsky, Saturne, Kiblansky et Fritz Axel, Saturne et la mélancolie, qui est la figure de l'artiste génial, et le mélancolique, c'est la bille noire, etc. Et puis on sait très bien qu'après, ça va. La mélancolie est envisagée aussi de manière plus clinique avec Freud. Et Freud, bon, on ne va pas vous faire un cours sur la mélancolie, ce n'est pas le sujet. Mais moi, je dirais, ce serait peut-être juste ma réponse, et puis je te laisse la parole, que j'ai toujours un peu en tête cette phrase que je trouve très, très belle de Victor Hugo, encore une citation, pardon, qui dit que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et c'est en quoi la mélancolie, je trouve, se distingue de la nostalgie. Le nostalgique regrette vraiment ce qui est, et en même temps, il le regrette, il peut aller dans un endroit précis du temps. Le mélancolique, il regrette ce qui est, mais en même temps, il est là où il est. Enfin, pour moi, hein, je ne dis pas, ce n'est pas du tout une définition ni freudienne, ni quoi que ce soit de la mélancolie. Donc c'est un mouvement peut-être plus dynamique qui comporte une dose de bonheur possible, une dose de joie. Il y a une joie dans la mélancolie, je crois. C'est pas du tout cette figure de l'artiste torturé qu'on connaît, hein, qui a travaillé l'histoire de l'art et des représentations. Moi j'envisage plus comme ça. Donc j'ai eu un plaisir triste et doux à écrire ce livre, et je suis retourné sur les lieux. Je n'étais pas allé depuis 35 ans, après l'avoir écrit, bien sûr, pas avant. Et là, j'ai été saisi par une bouffée de mélancolie incroyable. C'était, tout avait changé et en même temps, plusieurs choses étaient là, mais des
pas,
indices.
Mais justement. Pas de nostalgie.
Non, du tout, parce que je suis heureux là où je suis, et puis voilà, puis j'ai envie de continuer, et puis j'ai une femme formidable, etc. Donc voilà, mais non, mais c'était, voilà, c'était incroyable comme expérience.
Mais cette mélancolie, c'est d'ailleurs la démarche de votre héros.
Oui, oui, c'est ça, parce qu'il fait ce retour dans le temps, et il revisite toute son adolescence, en fait. Ouais. Mais pour chercher quelque chose, en effet. Donc c'est une mélancolie comme une quête.
La joie de la tristesse.
Oui, la joie de la tristesse, la dose de bonheur dans la mélancolie. Étienne, c'est à toi.
Alors que dire de plus, oui, la mélancolie porte en elle-même sa propre consolation, elle se dépasse elle-même. Sarah Chiche a écrit ce volume qui s'appelle Saturne, il y a 3-4 ans, je dirais. Récit de dépression, récit de deuil, etc. Mais qui est aussi porté par la joie et puis qui théorise l'idée qu'on peut trouver une forme de joie dans l'écriture. Je vais sortir moi aussi mes citations scolaires, etc. On a parlé de Freud un tout petit peu. J'ai un vague souvenir comme ça, d'il y a très longtemps, du cours de philo, d'un texte où Freud explique que le deuil et la mélancolie sont à la fois très proches et distincts, puisque... le deuil, c'est pas un sentiment, c'est plus que ça, mais bon, c'est une expérience où le monde se vide, alors que la mélancolie est une expérience où le moi se vide. C'est-à-dire que la mélancolie est beaucoup plus radicale. Là, on n'est pas dans l'idée qu'il y a une consolation, une joie, etc., dans l'approche freudienne. Mon personnage et moi-même, quand j'écris, et je pense, nous sommes plus du côté du deuil que de la mélancolie. Mon personnage porte le deuil de plusieurs disparus, et moi-même, avec ce livre qui s'appelle Les Envolés, qui désigne mon ami, mon grand-père, est un livre de deuil. J'ai conçu et je l'ai vécu et écrit comme ça. Donc oui, il y a une dimension mélancolique dans le côté un peu rêveur, un peu triste, un peu contemplatif aussi, une forme de lenteur et d'acceptation. Une forme de fatalisme, en fait. Mais c'est peut-être le deuil qui a la première place
qui prédomine
par rapport à la mélancolie.
La lenteur, ça me plaît bien, parce qu'on parle de chute. La chute, c'est brutal, quand même. Oui. Et puis, en même temps, on est travaillé, je crois, chacun, de toute façon, par cette idée d'une lenteur. Oui. Moi, c'est vrai que, finalement, d'une certaine façon, j'aurais aimé que le début de mon livre dure encore plus longtemps. Je voulais faire sentir le moindre détail quand il retourne dans ce village, quand les parquets craquent, quand il... ouvre la porte, quand il voit des vieux bouquins, des vieux folios, etc. J'ai envie que ça prenne un temps infini, parce que ça travaille l'épaisseur aussi du temps et l'épaisseur de la mélancolie, qui est, encore une fois, pas quelque chose de figé, mais que je vois comme une sorte de mouvement, en fait.
Et alors, pourquoi pas ?
Ça sera pour un autre. J'ai pas réussi. Vous savez, le livre, il a sa loi aussi. À un moment donné, il vous éjecte, il vous dit, ça suffit, stop, tu sors. On viendra pour... Non, je sais pas, on peut pas non plus forcer, je pense. Puis je tenais aussi à ce côté concis, peut-être parce que j'ai traduit beaucoup de fragments de Novalis et que je me suis formé d'une certaine façon dans l'écriture lapidaire, aphoristique. Donc c'est une forme qui, je pense, me convient. Je suis très admiratif des gens qui écrivent des livres de 600 pages, 700 pages. Pour l'instant, j'en suis incapable. J'ai fait un gros bouquin, gros pour moi, de 250 pages à récit en Chine. Mon éditrice l'a lu, elle me dit « La première page est bien ». Oui.
Le reste est très bien.
Non. Et je me dis, mais oui, mais le reste. Non, mais la première page est vraiment bien. Et de fait, c'est très bizarre comment les choses avancent. Je sais pas, tu diras, peut-être on pourrait évoquer ça aussi, la fabrique, comment on bricole tout ça. La première page du livre, il pleuvait des trompes d'eau, ce fut presque en courant, etc. En fait, c'est la première phrase de ce récit en Chine. Parce que mon université, en fait, à Paris 1, à la Sorbonne, on a des liens avec l'université de Beijing, à Pékin, à l'école polytechnique, dont j'ai enseigné 3 ans là-bas, avant Covid. Hein. Ils m'ont demandé de revenir, j'ai dit non, on va arrêter les frais. Et donc j'ai enseigné beaucoup dans cette université. Alors, c'était des cours en français, parce qu'ils ne parlent pas très bien anglais, parfois, les collègues chinois. Et donc, un jour, on part dans une autre université. On avait fait tout un tour, comme ça. Et puis on prend un taxi. Il pleuvait des trompes d'eau, le ciel était noir et on est parti très très loin dans une campagne dont j'ignorais tout. Je regardais désespérément mon téléphone, rien ne passait, aucun réseau. Et là, je me suis dit, en fait, je pourrais disparaître. Personne ne saurait où je suis, mes enfants n'auraient plus jamais de nouvelles de moi. Et j'ai eu je ne sais pas, j'ai eu un peu peur, ça m'a un peu inquiété. Et puis, il y a un pont gigantesque qui est arrivé, qui semblait se dérouler dans l'infini. Et voilà, et donc, ça m'a, je vais commencer mon récit par cette expérience en taxi, cette pluie qui est tombée. Et puis, la page s'est collée à ce livre-là.
Vous voulez lire ?
Oui, si vous voulez. Il pleuvait des trompes d'eau cette nuit-là, et ce fut presque en courant, sans parapluie, que je rejoignis le taxi qui m'attendait sur la chaussée d'une avenue froide dont j'oubliais régulièrement le nom. C'était la seule voiture dont le moteur était en marche. Je fus frappé, en sortant, par l'éclat des réverbères sur les pavés mouillés. Le chauffeur hocha la tête en me voyant. Je posai ma sacoche, mon ordinateur, et m'installai sur le siège arrière. Il s'engagea dans de petites rues. Il y avait très peu de circulation en cette heure tardive. J'aimais me laisser aller à mes pensées, profitant du calme de la ville endormie, des majestueuses et apaisantes silhouettes des platanes. Mais, comme les ribambelles de gouttes de pluie qui glissaient contre la vitre extérieure du véhicule, certains événements cheminent lentement, au ralenti, presque en tremblant.
Merci.
Étienne, tu peux peut-être lire une page de ton livre aussi. Et nous dire quelques mots. Je vais lui poser des questions. Parle-nous de ton rapport à l'écriture. Comment ça se passe ? Comment ça se bricole chez toi ? Est-ce que ça vient d'un jet ? Est-ce que tu fais un plan ? Moi, je sais que je fais aucun plan. Je découvre en faisant, et c'est pour ça que j'écris. D'ailleurs, c'est que je sais pas où je vais en fait.
C'est l'histoire qui vous mène en fait.
C'est l'histoire, c'est des impressions, c'est l'écriture. C'est l'écriture. On gratte quelque chose et puis des choses apparaissent qu'on ne sait pas avant. Du reste, c'est très différent. D'ailleurs, enfin, après j'arrête de parler de ce qu'on fait dans la théorie justement, où en général on a quand même plutôt une idée d'où on va. Il vaut mieux d'ailleurs. Là, pour ma part, c'est un cheminement vers l'inconnu. Ça m'intéresse beaucoup, ça.
Est-ce que vous avez un passage préféré dans votre histoire ? On a toujours
un bébé chouchou.
Une certaine tendresse, puisque c'est le terme, pour des passages de livres.
Je songe à la toute fin. Il n'y a absolument aucune dimension romanesque, il n'y a aucun suspense dans mon livre, qui, dès la quatrième couverture, nous dit que Franz meurt. Donc je pense que je peux lire la dernière page sans... Sans décevoir qui que ce soit, vous êtes déjà déçu de toute manière.
Sans déflorer, comment on dit
et donc c'est l'un des passages en italique où Franz est tutoyé.
Oui, alors juste ce petit détail pour ceux qui n'ont pas lu le livre, hein, les passages où l'auteur tutoie son héros sont en italique, et donc l'adresse est toujours en italique, et le récit, lui, est en caractère normal, donc on bascule sans cesse d'une adresse à un récit.
Voilà. Je songeais un petit peu, j'avoue, tragédie grecque avec ce passage chanté par le chœur qui commente, qui met en résonance l'action elle-même. Pour la dernière fois, je lance la vidéo. Tu es là, face à nous, immobile. Tu décroises les bras et, lente, silencieuse comme la mort qui vient, la cérémonie reprend. Je retrouve tes gestes, le mouvement des pieds, ton corps qui tourne sur lui-même, ton sourire quand tu portes la main à ta casquette. Chaque seconde, désormais, est comptée. Te voici déjà sur la chaise, un pied sur la rambarde. Les deux autres hommes sont sortis du champ. Tu es seul, seul face au vide. Le sacrifice humain se prépare. Tu es le prêtre et la victime. La mort est devant toi. Elle se dit au futur. Tu es mort, mais tu vas mourir encore. C'est presque du Barthes. Hein. Mais je le dis hein, dans les remerciements. Tu te penches, recules. Tu courbes vers l'avant, puis recules à nouveau. Ce léger repli du tissu dans ton dos, c'est l'instant. Nous y sommes. Ici, j'arrête le film. Je ne veux plus voir la suite. L'arche de la tour Eiffel, le ciel blanc, le point noir qui tombe. J'aimerais te laisser là-haut, au moment où rien n'est écrit. Le parachute pourrait se déployer. Tu arriverais indemne. Tu serais acclamé. Le lendemain, les journaux parleraient de toi comme d'un héros. Le miracle pourrait avoir lieu. Et cette image que j'ai figée, je la regarde encore. Encore, c'est la 79e seconde. Tu as déjà sauté, on voit bien la rambarde, plus rien ne la recouvre, mais la chute n'a pas commencé, ou si peu. Quelques centimètres à peine, tu flottes, tel un dieu ou un saint dont un peintre aurait voulu célébrer la gloire. Comme à Joinville, ton visage nous échappe, une grosse bulle de tissu t'arrache à nos regards. Tu es n'importe qui, un mystère, une page blanche. Tu es tous ceux qui sont tombés, tu es ceux qu'on a perdus. Tu es cette évidence qui suffit à me rendre le jour un peu plus beau, et le soir un peu plus triste, cette évidence que mes mots ne font qu'attester, cette évidence que dit chacune des images où demeure quelque chose de leur présence et se retrouve leur visage familier aimés, envolés, ils ont été.
Merci.
Et ce « ils ont été », c'est, puisqu'on parle de fabrique, c'est le « ça a été » de Barthes, mélangé au « ils ont aimé », on parlait de romantisme, le « ils ont aimé » du lac de Lamartine, qui est justement un poème qui pose la question de la trace, je veux dire, le lac devient le reliquaire de l'amour entre le poète et Elvire, ou entre Lamartine et Julie Charles, si vous préférez, à Aix-les-Bains. Ils ont aimé devient ils ont été. Même rythme.
Merci à tous les deux de votre générosité. On va peut-être passer la parole au public si vous avez des questions ou des envies d'éclaircissement. Juste un point, avoir discuté avec vous comme ça, j'ai le sentiment, moi, que ces chutes ne sont plus, et d'ailleurs vos deux titres nous y amènent, des envols et des sauts. Et finalement, on est beaucoup moins dans la chute que ce qu'on pourrait penser tout de suite de prime abord. Des questions parmi vous ? Ou des envies d'éclaircissement ? Ou des envies de lecture encore ? Ou des envies, vous, de lire ? Vous n'avez pas envie de venir lire un bout ? Oui ?
Je pensais à tout à l'heure sur la nostalgie et la... Sur la nostalgie et la...
La mélancolie ?
Mélancolie, c'est quelqu'un qui a écrit ça va me revenir. comment c'est sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit ça, que vous connaissez peut-être, puisqu'il s'appelait Charles Baudelaire. Je veux dire, la différence, si vous voulez, entre la nostalgie c'est que, et le deuil, c'est que là, il n'y a pas de raison. La nostalgie n'a pas de raison. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur a tant de peine.
Il semble que c'est Verlaine dans Romance sans parole. Hein.
Oui,
mais arrêtez d'oublier. Mais oui, voilà, sans raison.
Un prof de lettres, attention, hein, quand même.
Non, attention,
moi, je serais
calés,
vous, je me méfierais.
Ils sont très calés. Hein.
Mais Verlaine est tellement nourri de Baudelaire que Baudelaire aurait pu le dire. Hein, enfin.
Des remarques, des questions, non ? Non ? Oui ?
Ou alors dans les poèmes saturniens ?
Jacques.
Ah, les poèmes saturniens plutôt que les
romans. Oui, alors moi, je vous ai bien écouté. Hein, et bon, vous nous avez bien parlé de Barthes, de voilà, Bachelard, etc. J'ai l'impression, mais je me demande s'il n'y a pas, dans votre discours, dans votre façon de répondre, une certaine forme d'évitement.
parce qu'il y a des citations,
je trouve que
on se cache.
Non, mais vous cachez pas forcément, je pense qu'il y a de la pudeur. Et j'aurais bien aimé que vous nous parliez un petit peu des personnages, enfin ce garçon quoi, qui part adolescent et qui ne revient plus, qui quitte la maison de sa grand-mère, qui ne revient plus pendant tant de temps. Et qui revient. Pourquoi revient-il ? Pas seulement par curiosité, convoqué. C'est parce qu'il cherche quelque chose, et certainement qu'il porte en lui quelque chose. De même, voilà, le copain de Franz Rasch, enfin, vous-même, quoi, enfin, vous-même, le narrateur, y a quelque chose, quand même, avec cette jeune fille qui se jette, qui se défenestre, et quelle est la part, ou l'enfant, même, quelle est la part de responsabilité, même s'il n'a aucune responsabilité, quelle est la part de responsabilité inconsciente qu'il ressent ? Enfin, je ne sais pas, je me demande comment vous vous situez par rapport à tout ça, qu'est-ce que cherchent vraiment ces deux personnes ?
Mmh. Ben, je sais pas, pour ma part, il y a un secret, c'est vrai, et puisque c'est un secret, je n'ai pas pu trop vous en parler. C'est le propre du secret. Et je suis dans l'évitement, absolument. Le premier récit que j'ai écrit dans la même maison d'édition s'appelle Un seul souvenir. Et c'est un texte, voilà, qui est un récit de voyage que j'ai fait avec un photographe bulgare dans les Balkans pendant 4 ans. Et dans lequel reviennent des souvenirs. Et plein de souvenirs sont racontés, sauf un seul souvenir. Et tout s'articule autour de ce souvenir qui n'est pas raconté, qui est très important, comme la photo manquante chez Barthes. Il porte, je pense qu'il revient parce qu'il porte en lui tout ce drame, ce temps qui s'est écoulé, Et moi, je voulais, alors puisque vous voulez que vous voulez tirer les verres du nez un petit peu, vous voulez qu'on dise des choses plus personnelles, j'ai l'impression. Moi, j'ai écrit ce livre au moment d'une rupture amoureuse qui était assez douloureuse. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis précipité dans ce temps-là, qui était un temps de mon adolescence, et dans ces lieux, et dans ce château que je décris, que je connais très bien, parce qu'en réalité, j'y ai passé toute mon adolescence. Mes grands-parents étaient propriétaires de ce château. Ma grand-mère est morte, et voilà, le château a été revendu, mais j'en connais le moindre recoin. Et ça me plaisait de me dire que j'y revenais et qu'en même temps, j'étais dehors, j'étais à l'extérieur. Je ne pouvais plus y revenir, justement. C'était comme une espèce de, vous savez, un paradis, une utopie, enfin un lieu qui existe, enfin une utopie, c'est censé pas exister, mais disons un lieu voilà, préservé, mais qui, vers lequel je tendrais et qu'en même temps, je ne pourrais plus retrouver. Donc ce mouvement du personnage voilà, vers ce point est nourri de quelque chose d'un peu... Voilà,
mon intention n'est pas de vous faire violence. Hein.
Non, j'entends bien. Mais et voilà. Et puis en disant ça, je n'avoue rien parce que ça passe pas dans le livre du tout. Mais il y a eu ce mouvement en tout cas, vous voyez, de retour impossible au fond vers un passé idéal, vers un château qui est aussi une figure un peu comme ça de conte romantique évidemment, mais entre autres choses. Mais je me suis rendu compte qu'un jour, j'avais effectivement passé toute mon adolescence dans un château, chaque été. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, tout le monde ne fait pas ça. Et en lisant de la littérature, je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre, on parlait avec mes copains, mais j'étais le seul, évidemment. Donc je me suis dit, tiens, mais c'est curieux. Et puis, quand s'est passé ce qui s'est passé, tout d'un coup, c'est revenu comme une évidence que c'était un point de cristallisation, c'était un château intérieur, peut-être.
Un petit château en Bohême, chez Nerval. J'étais sensible à ce qu'a dit Olivier, à savoir que même quand il n'y a pas de vrai château, en fait, on s'invente un lieu en écrivant ou pour écrire ou parce qu'on écrit, je ne sais pas trop, mais le texte qu'on écrit devient un lieu où on se sent bien, oui, et qui réactive des souvenirs anciens. Et là aussi, pour dévoiler un tout petit peu des choses plus personnelles, même si je ne vais rien dire, en fait, je vais encore éviter. Quand je commence à parler timidement la figure du grand-père qui meurt dans le balcon, j'ai d'abord une page qui décrit la maison qu'il habitait, et le jardin surtout. Et en fait, pour moi, c'est la maison de ma grand-mère que j'ai bien connue, mais mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Et j'ai conscience, maintenant, en réfléchissant à tout ça, que j'évite de parler tout de suite du grand-père, mais aussi que j'ai éprouvé le désir, sûrement inconscient, de retrouver un peu cette maison à laquelle on n'a plus accès maintenant, où il y avait le jardin, où il y avait encore ma grand-mère. C'est un peu hors sujet, en fait, par rapport à Rachel, évidemment, mais aussi par rapport au grand-père. Mais je suis passé par cette maison pour le bonheur d'être triste.
Oui, c'est une maison à laquelle tu n'as plus accès.
Non.
Comme moi. Moi, j'y suis retourné dans ce lieu, justement. Et je l'ai vu, et je ne peux plus y rentrer. Et je n'ai pas envie, du reste, il ne faut pas. Mais puis il a été racheté, et puis les propriétaires ne sont jamais là, enfin bon. Mais c'est étrange de se dire que c'est là et en même temps c'est inaccessible.
C'est un lieu qui vous console mais qui reste inaccessible.
Oui, mais j'y suis retourné qu'une fois. Je veux pas y retourner. Pour le coup, j'ai aucune nostalgie. Enfin, je suis retourné
même
intérieurement,
dans
oui.
Votre, voilà.
À ce moment de ma vie, oui. Maintenant, je passe à autre chose. Mmh. Le prochain livre se passe à Rome.
D'accord.
Moi, j'aimerais vous poser une petite question technique. Vous nous avez dit que vous aviez eu aucune difficulté à vous arrêter à 117 pages, ou 116, non même pas, 114 pages. Et vous, pareil, je me souviens d'une rencontre avec des élèves, vous avez évoqué ça. Ce ramassement, je dirais, mal à propos, vers peu de pages, ça vous requiert quel sacrifice? Combien vous en avez sacrifié pour arriver là? Combien de brouillons, combien de pages? Comment vous procédez? Ce que je veux dire, ouais. Quel est votre procédé technique pour arriver là?
J'ai fait plein de versions, mais incroyable. Mais toutes tenaient à peu près dans les 150, ouais. 120. Je suis retombé sur la première version. J'ai eu un crash, d'ailleurs, c'est terrible. Il m'est arrivé un truc terrible. J'ai eu un crash, le disque dur. Donc tout a disparu. Toutes les photos avec mes enfants, des archives que j'ai faites aux États-Unis. Plus rien. Je ne vais pas vous apitoyer, c'est pas le sujet. Je l'ai emmené dans un labo, impossible de récupérer. Donc, et puis je me suis dit, eh ben c'est pas grave. c'est comme ça, il y a des choses qui disparaissent. On vit avec ça. Et donc il y a eu plein de versions. La première version s'appelait La tendresse de nos mères. Vous voyez. Et bon, c'est donc la tendresse finalement. Oui. Mais donc j'ai travaillé à resserrer. Et puis à un moment donné, je sais pas, c'était ça. Mais cela dit, je sais pas te concernant, mais moi le travail avec mon éditrice ça a été vraiment capital. Anne Bourguignon qui dirige les éditions Arléa, on a vraiment un échange. Je vous ai dit tout à l'heure que voilà, elle pouvait être un petit peu me titiller quand il fallait, et donc ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'elle voit des choses, elle comprend des choses de ce que je fais que moi je comprends pas forcément quand je suis dedans, et elle me suggère. Évidemment, elle n'impose pas, c'est moi qui l'écris, mais peut-être que là, tu devrais orienter dans telle direction, et ça aide beaucoup. Et donc à un moment donné, la chose est là, on peut plus rien ajouter. Je pense que le livre nous fait sortir, il nous expulse. Et j'aime beaucoup le moment, pour vous parler technique, je sais pas, quand les choses sont là et qu'on sent que c'est juste, je ne trouve pas d'autre mot, à un moment donné, c'est juste. Le moment où on fait un petit travail de détail, d'orfèvre, on plante un clou à tel endroit, on donne un petit coup ici, on passe un coup de lime, un petit bout de colle, c'est une construction, c'est comme une maison ou peut-être un bateau, je ne sais pas quelle image il faudra employer. Et c'est des petites choses invisibles, mais qui font que ça existe, en fait, aussi. Mmh. Et c'est très jouissif, je trouve, ce travail sur des tout petits détails, changer un verbe, changer un adverbe, des choses essentielles, en fait, qui font la littérature, je crois. Mais...
Retirer,
ajouter.
Moi, je vais pas répondre, parce que je suis d'accord point pour point avec ce que dit Olivier, pareil. J'ai énormément refait, retravaillé, tâtonné, hésité, etc. Mais en volume, ça a toujours été du côté de la brièveté. J'ai dû sacrifier 3-4 pages où il y avait un épisode de plus qui faisait revenir la Tour Eiffel. Mais mon éditrice Charlotte a aussi eu un rôle très important, mais elle m'a plutôt demandé d'ajouter un peu. Pas d'enlever, comme c'est souvent le cas, mais d'ajouter un peu, d'expliciter un peu plus, d'éviter un peu moins, en parlant un peu plus de mon grand-père et un peu plus de Muriel. Mais dès le départ, c'était fait pour être extrêmement concis, parce que je trouve que la brièveté est plus juste et plus près de l'émotion. On a parlé de Victor Hugo. Victor Hugo écrit dans 93, « Les grandes douleurs sont muettes ». Et dès qu'on est confronté à des émotions tristes, parce que c'est quand même un livre sur le deuil, trop de mots, ça, ce serait c'est artificiel, ce serait mignard, enfin je sais pas.
Ouais, je suis absolument d'accord. L'émotion, quand elle est là, elle est brève au fond. Voilà. Elle est profonde, intense, elle va loin, mais que ce soit l'amour, que ce soit la déception, enfin toutes sortes de registres. Et comment effectivement tenir sinon quelques mots, enfin des suggestions, on va pas bavarder sur l'émotion.
Et on revient sur le fragment du coup. Ton texte est continu, le mien est plus fragmenté parce qu'il y a plein de petites cellules. Et je tenais à cette fragmentation. Alors, je n'ai pas lu Novalis d'aussi près que toi, mais je sais l'importance de la réflexion sur le fragment dans le romantisme allemand. Et le fragment permet de suggérer, en fait, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est infini. Je veux dire, tout ce qui ne tient pas dans un texte peut être au moins suggéré par les marges blanches. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Éluard. Alors, on n'est pas dans le romantisme allemand, mais Éluard dit que... il parle de la poésie, il ne parle pas de ce que j'ai fait, mais il dit que le poète n'est pas celui qui est inspiré, comme on le croyait peut-être à l'époque romantique, mais celui qui inspire. Et le poète va inspirer ses lecteurs en leur laissant de la place pour s'approprier le poème, en écrire un nouveau, avec le crayon qui est dans les cheveux, le chignon,
c'est
tout ça.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, laisser la place au lecteur qui fasse...
Et donc ça passe par les marges blanches, ça passe par le fragment, la suggestion et une forme de
silence. Les suspensions, les silences.
Les points de suspension, Bref, on est absolument d'accord. On devrait écrire un livre à quatre mains, ce serait une expérience intéressante.
C'est même,
on appellerait ça
troublant qu'on soit d'accord à ce point-là, ça m'arrive pas souvent.
On appellerait ça, tendresse et mélancolie. Et on revient dans 2-3 ans,
ça va être
mélancolie et tendresse.
On peut pas revenir au premier roman. Ah, j'ai appris qu'il y avait un festival du second roman, vous avez ça c'est mon attaché de presse qui m'a dit ça, j'ignorais.
On a les auteurs de retour.
On les attend au second roman, alors merci à tous les deux.
Merci à vous.
De ces belles envolées et ces beaux sauts vers... pas forcément le but. Merci à vous.